Alors avant d'ouvrir la parole, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de culte que nous vivons ensemble. Merci pour la liberté que tu nous donnes de nous réunir et de le faire publiquement. Merci Seigneur pour cette joie partagée avec les frères et sœurs de venir t'adorer et entendre ta parole. Et nous voulons Seigneur te prier que tu fasses la place dans nos cœurs pour que nous recevions cette parole que tu veux nous donner. Que nous la laissions nous transformer, que nous la laissions nous rappeler des vérités à ton sujet et à notre sujet, et que nous la laissions transformer nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je continue ce matin ce que j'avais commencé il y a 3 semaines, je crois, la première épître de Pierre, et je vous propose ce matin de lire dans le chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Actuellement, on accuse souvent la tradition chrétienne d'avoir engendré le mépris du corps, la haine de soi-même et parfois des autres aussi, et finalement, d'une manière globale, un peu le refus du bonheur, quoi, du plaisir, du bien-être. Face à cela, le passage que nous venons d'entendre culmine dans une expression qui est juste avant et qui dit « Vous avez goûté, goûté avec tous vos sens, combien le Seigneur est bon. » Et pour donner à cette affirmation un contenu, la lettre de Pierre explique à ces chrétiens ce qu'ils sont devenus par l'appel de Dieu, l'appel que Dieu leur a adressé. Et ce que cela signifie dans un environnement hostile, et aussi comment ils doivent s'y prendre pour grandir dans cette réalité qui est issue de leur baptême. Alors pour nous ce matin, c'est une occasion supplémentaire de progresser dans ce qu'on médite depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire la compréhension de notre identité en Christ, notre marche chrétienne et la connaissance de la grâce de Dieu. Autrefois, nous dit Pierre, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Vous ne connaissiez pas la miséricorde de Dieu et maintenant, vous l'avez découverte. Le mot qui est utilisé pour « peuple » est celui que l'Ancien Testament applique à Israël, le peuple élu. Cela résume l'aventure vécue par ces chrétiens qui ont été appelés à la foi et qui ont été enseignés par les apôtres. Leurs origines étaient très diverses. Ils venaient de différentes religions païennes, de peuples variés, de classes sociales opposées. Ce qui veut dire que normalement, ces gens ne se connaissaient pas ni ne se fréquentaient. Ils avaient des horizons et des intérêts divergents. Mais l'appel de Dieu et son évangile les ont saisis. Ils ont écouté les apôtres, ils ont pris leurs paroles au sérieux, ils ont pris Dieu au sérieux et ils ont demandé le baptême. Des personnes diverses, sans lien entre elles, ont découvert dans la communauté chrétienne une fraternité qu'elles n'avaient pas soupçonnée. Et ce mouvement de la foi, du baptême et de l'acceptation dans une communauté a donné à leur vie un sens et un contenu. Là où ils avaient la peur de l'avenir et des dieux, puisque souvent c'était des religions polythéistes à cette époque-là, a été remplacé par la confiance en un Dieu qui se révèle comme miséricordieux et bon. Ils ont découvert un Dieu qui n'est ni sadique ni vindicatif, un Dieu qui, par l'Esprit Saint, construit les humains qui se confient en lui. Cette nouvelle réalité est résumée dans ce texte avec l'expression « nation sainte ». Une nation, c'est un ensemble structuré d'hommes, de femmes, d'enfants et d'anciens, unis par une histoire, un langage, des valeurs, une vision et un projet commun. La nation chrétienne est devenue une telle réalité, appelée sainte, non pas parce qu'elle serait meilleure ou supérieure en elle-même, mais parce qu'elle est fondée sur l'alliance de Dieu et parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, un esprit d'amour et de respect, l'anime. Voilà ce que sont devenus ces chrétiens. Voilà ce que nous sommes aussi devenus par la foi et par le baptême, nous dit la lettre de Pierre. Une communauté liée à Dieu et animée par son esprit. Cette réalité sociale, quelque part, qui est la communauté chrétienne, a un fondement, c'est Jésus-Christ. La solidité de l'Église ne provient pas de Pierre ni de ses successeurs. Elle provient du Christ, qui est la pierre angulaire que les maçons ont rejetée, mais que Dieu a choisie malgré le refus des hommes. Et cette affirmation est importante parce qu'elle rappelle que la foi chrétienne est toujours, toujours fondée sur l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est encore et toujours le seul médiateur, le seul chemin entre Dieu et les hommes. Et l'image de la pierre devient aussi le signe du jugement de Dieu sur un monde qui rejette l'Évangile. Ceux qui croient en Christ découvrent que l'Évangile de Jésus-Christ est quelque chose de précieux, alors que ceux qui refusent trébuchent et tombent. Alors je vais revenir sur l'image de la pierre dans un instant. Ce que je veux dire avant, c'est que c'est aussi notre vocation d'être les porteurs de cette action de Dieu qui nous a fait sortir de l'obscurité, de la peur et des questionnements sans fin pour découvrir la merveilleuse lumière qui, depuis Pâques, illumine notre vie. Et le signe de ce renouveau, c'est le baptême. Nous devenons frères et sœurs en Christ. Nous devenons une famille, un peuple, une nation. Cette lettre affirme que nous formons ensemble, comme des pierres taillées par le Seigneur, une maison spirituelle où peut habiter l'Esprit Saint, où peuvent vivre les valeurs de la vie, de l'amour, où peut se révéler la sainteté de Dieu lorsque nous le célébrons. Et notre culte a aussi ce but, célébrer l'immense sainteté de Dieu dans un monde qui est souvent si étriqué. Et c'est là que nous sommes ce peuple de prêtres dont parle la lettre de Pierre. Alors je reviens maintenant sur les pierres. L'apôtre, dans ce passage, utilise des images pour mieux se faire comprendre. Et il va beaucoup tourner autour de l'image de la pierre, qu'il prend successivement comme image symbolique du Christ, puis des chrétiens. Alors je ne sais pas s'il a joué avec ce mot parce que lui-même s'appelle Pierre, hein, c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est quand même amusant que ce soit lui qui en parle. Et il ajoute deux fois à cette image de la pierre l'adjectif « vivante ». Ce qui, vous êtes d'accord, n'est pas tout à fait logique. Une pierre, par définition, ça n'est pas vivant. Voilà qui vient nous interpeller. Il y a plus le Christ et la pierre prophétisée. Mais la promesse ne s'est vraiment accomplie qu'à la résurrection, parce que c'est à ce moment-là que la pierre rejetée devient une pierre angulaire. Le Christ est ressuscité, il est vivant, et c'est à sa communion que les chrétiens sont invités. Alors ils sont unis à lui, alors ils deviennent des pierres vivantes, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui, dans ce monde, sont les témoins d'une vie nouvelle, celle de la régénération dont j'ai parlé quand j'ai abordé le premier chapitre de cette épître. Une vie qui porte déjà en elle les marques de la vie éternelle. Une vie qui, aux yeux de Dieu, est infiniment précieuse et qui correspond à sa volonté, puisque c'est lui qui l'a choisie et qui l'a donnée. L'image se développe puisque Pierre nous dit « Si nous sommes des pierres, nous les chrétiens, cela peut former une construction, un édifice. » Encore faut-il le vouloir. Au verset 5, le verbe peut être lu au présent de l'indicatif ou de l'impératif. La version que j'ai lue, c'est de l'impératif. Et ça cadre mieux, je crois, avec le développement. Édifiez-vous. L'image est admirable et mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle est en train de nous dire que nous ne sommes pas un tas de pierres. Nous ne sommes pas une foule d'individus sans lien les uns avec les autres. Nous sommes appelés à former un édifice. Et pas n'importe quel bâtiment à usage indifférent, mais un temple, le temple de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés avec cette image de la pierre. Alors on a d'autres versets qui nous parlent du fait qu'on est temple de Dieu, etc. Et notamment dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, quand Jésus parle du temple qui est son corps. Le temple, depuis que Salomon a eu l'autorisation de l'édifier pour abriter la tente de la rencontre, est le lieu de la terre qui est mis à part pour que les hommes se souviennent que Dieu veut habiter parmi eux. C'est la raison pour laquelle Jésus est le parfait accomplissement de ce qu'il fallait comprendre comme une prophétie. Le temple de Jérusalem annonçait la présence toujours agissante du Dieu d'amour parmi nous. Et Jésus, la parole, le Verbe, a habité parmi nous. Alors Jésus, comme le dit Pierre, est la pierre angulaire choisie par Dieu et sur laquelle tout repose. Mais il nous dit aussi que l'homme n'a pas voulu de cette pierre précieuse choisie par Dieu, et que l'homme l'a rejetée. Oui, ce que Dieu avait élu et estimé, nous l'avons rejeté. Et là, il convient de nous arrêter. Parce que si on croit encore, les uns ou les autres, qu'il y a par nature un bon désir dans notre cœur, c'est qu'on n'a pas compris la grâce. Et Satan fait tout pour régulièrement nous susurrer à l'oreille « Tu n'es pas si mauvais que ça quand même. » Parce que sans conviction de péché, eh bien nous n'avons pas besoin ni de grâce ni de sauveur. Alors parfois, au contraire, Satan utilise l'effet inverse et nous accable tellement de notre misère et de notre péché que nous nous éloignons de Dieu pensant être indignes de son amour. Dans les deux cas, le but, c'est de nous détourner de Dieu. La vérité, c'est que la parole de Dieu nous le dit, nous sommes complètement, entièrement pécheurs et perdus. Et nous sommes indignes de l'amour de Dieu. Mais la grâce, mes amis, vient justement nous apprendre que nous n'avons pas besoin d'être dignes. Parce que Jésus l'est pour nous. La grâce, c'est que Dieu m'aime alors que je ne suis pas aimable. Et que je n'ai encore rien fait pour lui plaire. La grâce, c'est que Dieu m'aime tellement qu'il envoie son Fils unique qui est saint et parfait pour mourir à ma place et payer la dette de mon péché. La grâce, c'est que ce don est totalement gratuit. Je n'ai finalement qu'à accepter d'en être bénéficiaire. Nous n'avons pas fini d'être émerveillés de la grâce et de l'amour de Dieu à partir du moment où on commence à y plonger les regards. Et je crois qu'il faut le faire. Alors voilà, nous dit Pierre, comment on distingue ceux qui croient. C'est pour eux que Dieu, que Christ est précieux. Nous sommes absolument méchants dans le fond, c'est le sens du « tous sont coupables ». Vous avez rejeté la pierre vivante, mais par grâce, et uniquement par grâce, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce que Dieu a manifesté comme étant la vérité doit maintenant se manifester dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons avoir la connaissance claire et distincte que Dieu fait grâce à l'homme lorsque toute sa méchanceté a été manifestée. Alors oui, il nous faut compter sur les difficultés du chemin, sur tout le mal qui est en nous, mais il nous faut compter surtout sur la grâce qui s'applique à ce mal. On pourrait dire « Dieu nous a délivrés et si nous observons les commandements, nous serons la nation sainte ». Mais ça, c'est une méprise, parce que ce serait commencer par la grâce et finir par la loi. Si nous avons compris qu'il n'existe pas de bien en nous, nous devons aussi comprendre que la grâce de Dieu a agi selon la connaissance exacte qu'elle avait de ce mal. Si je devenais la nation sainte par mon obéissance, toute la gloire reviendrait à moi. Et la chose n'arrive jamais parce que ça exalterait l'homme et non pas Dieu. Mais si après avoir péché et rejeté la pierre vivante, je reçois comme une grâce d'être la nation sainte, alors j'annonce la grâce de Dieu et il est glorifié. Tout ça pour dire que même si nous restons aveugles sur nous-mêmes, Dieu a fait l'expérience de notre cœur. Il nous connaît, il sait que nous ne valons rien. Il faut que là-dessus, nous soyons d'accord avec Dieu. Il a fait l'expérience de notre cœur, il a donné la loi, nous l'avons violée. Il a donné les prophètes, nous les avons tués. Il a donné son Fils, nous l'avons rejeté et mis à mort. Vous allez dire, on n'était pas là, hein, mais quand même, ça nous concerne aussi. Et si vous faites l'expérience de vos propres cœurs, n'en soyez pas étonnés, mais soyez-en humiliés au sens biblique du terme et comprenez que la grâce de Dieu s'applique justement à cela. C'est justement là que la grâce se manifeste dans toute son étendue et sa magnificence. Alors évidemment, si on fait cette expérience avec notre propre chair et avec Satan qui nous parle à l'oreille, on va être troublé. Mais si on le fait avec l'Esprit de Dieu, on sera conduit dans l'humilité aux pieds de Jésus. C'est là que nous mesurons aussi ce que signifie mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Quand on fait l'expérience réelle de nos cœurs et qu'on comprend ce qu'est la grâce, on ne peut que désirer mourir avec Christ pour renaître à la vie nouvelle avec lui. Parce qu'enfin, on a ouvert les yeux sur notre misère, sur nos ténèbres, et qu'on aspire à vivre vraiment de la vie du Seigneur. Notre premier privilège, c'est de nous approcher de Dieu. Et notre responsabilité, c'est d'être fidèles à nous en approcher. Évidemment, hein. Si nous ne faisons pas ce pas, il ne se passera pas grand-chose. Notre second privilège, c'est d'être une sacrificature royale, de manifester la gloire de Christ. Et notre responsabilité, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et Pierre ici nous dit « Nous sommes placés dans le monde pour cela, annoncer le Seigneur. » Maintenant que le Christ a quitté cette terre, c'est à nous les chrétiens d'assumer cette vocation extraordinaire et incroyable, être dans le monde des signes vivants de la présence de Dieu, présence du Dieu qui donne la vie. Et certes, nous pouvons l'être chacun dans notre coin, mais le projet c'est de l'être ensemble. C'est ça l'Église, l'être ensemble dans un ensemble bien coordonné, bien édifié, bien construit, où la pierre, les pierres que nous sommes, s'ajustent selon un agencement qui fait de la construction l'édifice que Dieu veut. C'est sa maison, son temple, un temple spirituel. Alors en s'approchant de Christ, on devient une pierre vivante. Et l'Église est un édifice de pierre vivante. C'est ensemble que nous formons cet édifice. Et c'est notre vocation à tous ensemble d'annoncer Christ et d'être des témoins de sa vie. Et tant qu'on est sur cette image encore de la pierre, il nous faut réaliser qu'une pierre, c'est stable et solide. Ça n'est pas ballotté à gauche et à droite. En Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu et nous avons obtenu miséricorde. En Christ, nous avons la paix et ça, c'est un fondement solide. Alors, je le disais tout à l'heure dans le premier chapitre de son épître, Pierre nous rappelle que Dieu nous a communiqué une vie nouvelle par la résurrection de son Fils. C'est ce qu'on appelle la régénération, comme on l'a vu il y a 3 semaines. Dieu veut nourrir nos âmes de sa parole. C'est ce qui nous a été rappelé ce matin avec l'exemple de David. Dieu veut nous instruire par le moyen de sa parole, afin que nous marchions dans un sentier d'obéissance et de fidélité. Il veut aussi que dans ce chemin, nous le servions, que nous servions le Seigneur dans l'assemblée. Et souvent, on dit qu'on n'est pas capable, ou je n'ai aucun don, toute activité de ma part serait déplacée. Parfois, ça dissimule une paresse, ou en tout cas une non-envie, hein. Mais parfois, on a l'impression que c'est de l'humilité. Et en fait, en disant ça, on oublie l'exhortation des chapitres de la première épître aux Corinthiens qui nous parle des dons et de leur exercice dans l'assemblée. Il est remarquable de trouver dans ce passage à 4 reprises l'expression « désirer avec ardeur ». Là, c'est pas se cacher derrière une excuse, hein. « Désirer avec ardeur ». Non pas un désir éprouvé avec plus ou moins de conviction, mais un désir profondément senti, un désir brûlant. Désirer avec ardeur les dons de grâce plus grands, ceux qui sont exercés pour l'édification de l'Assemblée, nous dit Paul aux Corinthiens. Parce qu'ils le sont par amour, et non pas pour la recherche d'une gloire personnelle. Voilà ce à quoi Pierre nous appelle aussi, je crois, avec cette exhortation « Édifiez-vous ». Chacun doit être à sa place, selon les dons que le Seigneur lui a confiés. À sa place, ça ne veut pas dire être passif ou assis. Au contraire, il s'agit là de servir Dieu, de servir l'Assemblée. Le chrétien n'est pas celui qui entre au culte, s'assoit et reçoit seulement. C'est aussi ça, hein ? Mais il est aussi serviteur, actif, selon les dons et l'appel reçu de Dieu, évidemment. Il n'est pas question de faire ce que la pierre d'à côté fait, hein. Selon les dons et l'appel reçu de Dieu. Et tout ceci doit se faire de manière ordonnée. C'est l'idée de l'édifice, hein. Parce que ça reflète le Dieu d'ordre que nous adorons. Alors, je fais une parenthèse pour vous dire que par rapport à cette question des dons et de trouver chacun la place dans le service pour Dieu, nous vivrons en septembre un week-end d'église à Alès sur les dons, pour qu'on puisse réfléchir personnellement et communautairement aussi aux dons que le Seigneur nous a confiés et à la responsabilité qui y est attachée, de les faire fructifier dans l'Assemblée pour sa gloire. Je ferme la parenthèse. Si vous êtes les témoins consacrés des merveilles de Dieu pour vous, comme pour tous les hommes, alors vous assurez dans notre monde que Dieu est prêt à rencontrer chacun, à se révéler, à être pour eux comme il l'est pour vous le Dieu qui veut donner la vie. Voilà la vocation glorieuse à laquelle nous sommes appelés. Alors évidemment, on peut éprouver de la crainte de n'être pas ce qu'il faudrait. Mais là encore, nous n'avons qu'à tourner les yeux vers Dieu et à dire « Seigneur, je veux croire, viens en aide à mon incrédulité. » Que nos yeux restent fixés sur Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Que notre désir soit d'être auprès de Dieu dans la connaissance de sa grâce et la manifestation de sa gloire pour que nous aussi nous puissions rayonner. Amen.